Aujourd'hui, à l'émission Un temps pour parler, vous entendrez une entrevue de l'abbé Denis Veilleux. Il reçoit le père Pierre Descouvemont, prédicateur français. Ce dernier de trois entretiens a pour titre « La mission des saints et des saintes ».
C'est toujours avec le père Pierre Descouvemont que j'échange dans cette dynamique de le connaître dans son parcours de prédicateur. La mission, Thérèse, patronne des missions,
alors,
comment se fait-il?
Je pense qu'il est intéressant de savoir comment Thérèse a été déclarée par le pape en décembre 1927, patronne de tous les missionnaires du monde. Figurez-vous que cela se passe au nord du Canada, dans le Grand Nord. Vous savez peut-être que les Oblats de Marie, qui avaient été chargés d'évangéliser les Esquimaux, ont été extrêmement persécutés par eux. Les Esquimaux étaient de véritables sauvages qui, je ne pense pas les mépriser en disant cela, bon, c'est vrai qu'ils vivent dans un climat tellement dur. Ils ont tué beaucoup de missionnaires. Si bien que Mgr Charlebois, l'évêque canadien chargé de cette mission en Grand Nord, a dit à ses Oblats de Marie, écoutez les gars, l'Évangile nous dit, quand vous êtes persécutés, allez dans une autre ville. Je pense qu'on ne doit quand même pas être candidat au martyr de cette façon-là. On va partir. On se donne encore un an.
Quels étaient les motifs des persécutions?
Ah ben, c'est qu'ils trouvaient que ces missionnaires blancs étaient tout à fait contraires à leur spiritualité,
leur
à leur mœurs. Bon. Donc, ils se donnent encore un an. Et au cours de cette année, les Oblats de Marie, qui étaient le plus au nord, ont reçu deux paquets de Normandie et ils n'ont jamais su qui les leur avait envoyés. Un paquet contenait une vie abrégée de Thérèse de Lisieux, qui n'était pas encore béatifiée, c'était en 1916, et un autre paquet contenait de la terre provenant de la tombe de Thérèse au cimetière de Lisieux. Et l'on disait, cette terre fait des miracles. Alors, l'un des Oblats dit à son compagnon, « Écoute, on n'a rien à perdre, on peut essayer si cette terre fait des miracles. Demain, lorsque je jouerai de l'harmonium, tu as vu que les Esquimaux aiment beaucoup me voir jouer de l'harmonium, tu te mettras derrière eux et tu jetteras de la terre, de la tombe de cette Thérèse, dans la tignasse des Esquimaux. » Le lendemain, effectivement, l'Oblat de Marie arrose, parsème la tête des Esquimaux de cette terre provenant de la terre de la tombe de Thérèse. Imaginez la tignasse des Esquimaux, ils n'ont rien senti. Et voilà que justement, le dimanche suivant, ils demandent le baptême. Ils entrent en catéchuménat. C'est le point de départ de l'évangélisation des Esquimaux.
Incroyable.
Oui, et incroyable mais vrai. Et du coup, bien des années plus tard, Mgr Charlebois a écrit au Vatican en disant « On pourrait peut-être faire de Thérèse la patronne des missions. » Le Vatican, pas pressé, s'est adressé à tous les évêques missionnaires du monde pour leur demander s'ils étaient d'accord. Avec leur accord, le pape Pie XI a déclaré Thérèse patronne des missions. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'elle avait demandé à Saint François, elle avait fait une neuvaine à Saint François Xavier l'année de sa mort en 1897, pour demander la grâce de passer son ciel à faire du bien sur la terre, elle ne devinait absolument pas qu'un jour, elle deviendrait patronne des missions avec Saint-François-Xavier. Puisque je suis en train de parler des Esquimaux, je vous parlerai volontiers d'un de mes chers amis qui est au ciel, le père Roger Bulliard.
C'est un Français.
C'est un Français. Le père Bulliard, un de plus, qui est entré chez les Oblats de Marie parce qu'il avait tellement chahuté dans les autres collèges dont il avait été renvoyé qu'il a fini par être accepté au Juvénat des Oblats de Marie. Et on l'a expédié au Grand Nord. Pendant tout son noviciat, on lui a dit qu'un Oblat de Marie devait toujours vivre en communauté, jamais tout seul. Et on l'a expédié tout seul au Grand Nord. Il faisait je ne sais plus combien de centaines de kilomètres chaque année pour aller chercher son courrier se confesser et renouveler sa bouteille de vin de messe. Il a vécu cette grande aventure du Grand Nord que plus personne ne vit maintenant, avec ses chiens. Hein, et il devait pêcher 120 kilos de saumon tous les jours pour nourrir ses chiens.
Et vous l'avez connu ?
Et je l'ai connu. Oui,
personnellement ?
Oui, j'étais son grand ami. J'ai même célébré avec lui la dernière messe qu'il a célébrée sur Terre dans sa clinique de Paris. J'ai vraiment son grand ami, quoi. Hein, bon. Et je célèbre la messe avec son aube qu'on m'a donnée après sa mort. Tellement on sait que j'ai été très ami avec Roger Bulliard. Bon, et alors, donc, vous voyez, le genre de vie qu'il a eu. Et il savait qu'il ne devait surtout pas tomber au milieu de ses chiens. Parce que quand un chien esquimau voit quelqu'un de blessé, le sang l'excite et vous êtes mangé par les chiens esquimaux. Son cousin, un autre Bulliard, avait été mangé par ses chiens. Et c'est ce qui fait que ce père Bulliard a dû abandonner le Grand Nord à un certain moment, parce qu'ayant été blessé au doigt, il risquait de tomber au milieu de ses chiens et d'être mangé. Bon, et alors un jour, ce père Bulliard se trouve devant un sorcier esquimau qui lui dit « Toi, si t'es vraiment le représentant du bon Dieu, eh bien, je vais te percer avec mon javelot et tu ne vas rien sentir. » Alors le père Bulliard s'est dit de temps en temps « Il faut aider le bon Dieu dans l'évangélisation. » Et il lui a répondu « Ça, je ne le fais pas, mais je fais autre chose. » Il a pris son dentier, il l'a sorti de sa bouche, il l'a remis. Et alors, à ce moment-là, l'évangélisation a pu commencer dans ce Grand Nord, puisque le sorcier a dit « le sorcier blanc », il enlève ses dents et il est armé.
C'est incroyable.
Incroyable. Notez qu'il fallait avoir un dentier. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça. C'est ce que j'ai expliqué récemment en prêchant une retraite aux prêtres d'Avignon. Je leur dis « voyez, mes chers amis, vous réfléchissez beaucoup sur la nouvelle évangélisation, mais dites-vous que l'évangélisation suppose parfois des moyens bien spéciaux. » Savez-vous comment le curé d'Ars intéresser les jeunes aux processions du Saint-Sacrement? Je pense qu'aucun curé n'oserait faire cela aujourd'hui. Il leur faisait claquer des pétards sur le parcours de la procession.
Oui,
parce qu'il estimait
j'ai entendu ça.
Bon, il estimait que les jeunes avaient besoin de se... Bon.
Oh, s'extérioriser.
S'extérioriser. Je pense qu'aujourd'hui, il serait plutôt pour les guitares électriques. Puisque je suis en train de parler de Sainte Thérèse, j'aurais envie de vous raconter quelques belles histoires, et notamment une belle histoire d'apparition de Thérèse.
Allez-y.
Vous savez que depuis sa mort, Thérèse apparaît énormément. Bon. Au cours d'une retraite que j'ai prêchée quelque part en France, une personne a reçu la visite de Thérèse dans sa chambre. Hein, et Thérèse a posé le crucifix de la pièce sur la joue de la personne. « Laisse-toi donc pardonner par Jésus, ne fais pas toute une histoire de tes péchés, laisse-toi pardonner. Hein. » Bon, alors, j'ai bien connu, à la fin de ses jours, une grande handicapée française, Suzanne Fouché, qui a fondé l'ADAPT pour la réadaptation des handicapés moteurs. Une femme extraordinaire qui s'est convertie à l'âge de 17 ans et qui a donc fondé cette histoire, cette association. Parce qu'elle s'est rendue compte à un certain moment, quand elle avait la tuberculose osseuse, que les jeunes handicapés chahutaient dans leur chambre d'hôpital. Du coup, ils ne faisaient rien. Et un jour, elle a dit à ses camarades, « Mais au lieu de chahuter, on pourrait peut-être s'amuser à s'apprendre des choses des uns aux autres. Moi, je sais un peu de latin, toi, tu sais un peu d'économie, toi, tu sais un peu d'anglais. » Et elle a eu l'intuition de sa vie qui a orienté toute sa carrière. Les handicapés peuvent faire des choses. Au lieu d'être de perpétuels assistés, ils peuvent s'aider les uns les autres à progresser. Bon, alors un jour, cette personne a été hospitalisée une fois de plus en Égypte, suite à sa tuberculose osseuse. Et elle a vu arriver dans sa chambre de clinique le premier ministre égyptien en personne, Sidi Pacha, musulman. Il discutait avec elle de toutes sortes de choses, des rapports entre la France et l'Égypte, entre le christianisme et l'islam. Et un jour, il lui a raconté ce qui venait d'arriver à son ministre des PTT égyptien. Celui-ci avait liquidé tout le personnel étranger de son ministère par suite d'une vague de xénophobie qui sévissait là-bas. Et parmi ce personnel licencié, il y avait une petite demoiselle, une secrétaire de 24 ans, qui était toute désolée de perdre son poste du fait que sa mère était handicapée et que son frère était aveugle. Découragée de perdre son poste, elle va prier Sainte Thérèse dans sa basilique de Choubra, au Caire. Il y a eu tellement de miracles accomplis en faveur des musulmans par l'intercession de Sainte Thérèse que les musulmans ont contribué à la construction d'une grande basilique, basilique de Choubra, qui continue à être très fréquentée par les habitants du Caire. Donc, elle va prier, Sainte Thérèse, faites quelque chose pour moi. Elle revient au ministère chercher sa blouse et les autres effets qu'elle y avait laissés. Presque aussitôt, elle se fait convoquer par le ministre, qu'elle n'avait jamais rencontré, la petite secrétaire de 24 ans. Elle se fait convoquer par le ministre et se fait vraiment attraper. Mademoiselle, je n'aime absolument pas ce genre de recommandation que vous avez essayé de faire valoir pour conserver votre poste. Vous devriez savoir que je n'aime pas qu'on fasse pression sur moi. C'est le meilleur moyen pour être à jamais rayé des cadres de mon ministère. Mais monsieur le ministre, je n'ai parlé à personne de mon licenciement. Je ne suis même pas retourné chez moi pour manger. Oh, écoutez, mademoiselle, ne me racontez pas d'histoire. Je connais maintenant tout votre curriculum vitae. Je sais que votre mère est handicapée et que votre frère est aveugle, que vous êtes soutien de famille. Une personne très distinguée est venue m'expliquer ça tout à l'heure dans mon bureau. Habillée d'ailleurs d'une façon un peu bizarre, avec une bure brune et un manteau blanc trop court pour elle, mais un regard extraordinaire. La fille se dit, c'est pas possible, c'est Sainte Thérèse qui lui est apparue. Je n'ai parlé à personne de mon licenciement. Alors, elle sort de son sac une image qu'elle portait toujours sur elle, représentant Thérèse en habit de carmélite. Monsieur le ministre, ce ne serait pas cette personne qui est venue vous voir tout à l'heure?
Mais tout à fait, je m'ingénie à vous le dire depuis tout à l'heure, c'est tout à fait elle.
Monsieur le ministre, dois-je vous faire remarquer que cette personne est décédée depuis 1897 et on était en 1935. Alors, le ministre regarde d'un peu plus près l'image, il s'aperçoit que c'est l'image de Thérèse, bien connue de tous les kérotes, avec une inscription en anglais, Sainte Thérèse, priez pour nous. Et là, c'est lui qui se met à paniquer. C'est vrai, cette personne est entrée directement dans mon bureau sans être introduite par les huissiers. Oui, ah oui, mais je l'ai reconduite à la porte. Alors il fait venir les huissiers qui se trouvaient dans l'antichambre. Messieurs, vous avez bien vu que tout à l'heure, je reconduisais à la porte une personne qui s'était permis de s'introduire dans mon bureau sans être introduite par vos soins. Les deux huissiers se regardent et se mettent à rire. Monsieur le ministre, puisque vous nous le demandez, on a bien vu que tout à l'heure vous alliez à la porte, mais on se demande encore pourquoi vous étiez en train de causer tout seul. Et alors Suzanne Fouché, qui racontait cela, me disait que Pierre Teilhard de Chardin, auquel elle avait raconté l'histoire, s'émerveillait de cette présence de Dieu, de cette présence du ciel sur la terre, quoi. Hein?
Je ne vais passer mon ciel à faire du bien sur la terre, alors Thérèse n'arrête
pas. Et sur la terre,
pas.
Elle insistait beaucoup sur le fait qu'elle ne se contenterait pas de regarder du haut du ciel, mais qu'elle suivrait ses novices de près. Bon, ça fait partie des fioretti innombrables de Sainte Thérèse. Vous voyez, Sainte Thérèse fait partie de ces saints thaumaturges. Hein. Vous savez que dans l'Église, il y a des saints par l'intercession desquels il y a eu beaucoup de miracles. Saint Antoine de Padoue, Saint Trita, Saint Comé Damien. Bon, on ne sait pas pourquoi Dieu se sert des uns plutôt que des autres. Bon, ça, c'est le secret de Dieu. C'est l'humour de Dieu.
Même le Père Brottier,
sur
le champ de bataille, a été préservé par Thérèse.
Oui, alors vous connaissez cette histoire, elle est très belle aussi, cette histoire du Père Brottier, parce que je suis très, très en lien avec les orphelins d'Auteuil. En novembre 1923, quand le Père Brottier a été nommé par les Spiritains responsable de cette maison qui avait été fondée par l'abbé Roussel à Paris au XIXe siècle, quand il a vu le véritable hangar dans lequel priaient les orphelins, il s'est dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Parce que pendant toute la guerre, le Père Brottier a été aumônier militaire pendant la guerre 14-18, pas une seule égratignure. Il a ramassé je ne sais combien de blessés comme aumônier militaire, pas une seule égratignure. En janvier 1919, son supérieur, Mgr Jalabert, lui a dit, «
Père Brottier, vous savez pourquoi vous n'avez eu aucune égratignure? Je vais vous le dire. Regardez mon bréviaire. » Il a ouvert son bréviaire où se trouvait une image double. D'un côté, l'image de Sainte Thérèse, de l'autre côté, la photo du Père Brottier. Le Père Jalabert avait dit à Thérèse, « Celui-là, il faut me le conserver, j'en ai besoin. » Et effectivement, aucune égratignure. Quand il a appris qu'il avait été préservé par cette Thérèse dont il connaissait à peine le nom, il s'est dit plus tard, « Si j'ai l'occasion, je ferai quelque chose pour elle. » Donc, quand il a vu ce hangar, il s'est dit tout de suite, « Ah, il faut que je construise pour mes orphelins une belle chapelle en l'honneur de la petite Thérèse qui vient d'être béatifiée. Seulement, je n'ai pas le sou. Eh bien, je vais faire un pacte avec Thérèse. » C'est ce qu'il fera toute sa vie. « Thérèse, si tu veux avoir une chapelle, il me faut 10 000 francs à la fin de la neuvaine. » Il fait prier les orphelins à une intention particulière, sans leur dire. Les 9 jours se passent, les 10 000 francs ne sont toujours pas là. Le taxi est arrivé pour qu'il puisse se rendre chez le cardinal Dubois, archevêque de Paris. À ce moment-là, surgit une personne. « Mon père, j'ai quelque chose à vous donner. »« Madame, je n'ai pas le temps. » Je dois aller chez le cardinal. Écoutez, madame, mon père, c'est urgent. J'ai une enveloppe à vous donner. Il ouvre l'enveloppe, 10 000 francs. Thérèse aura sa chapelle. Et quand il a confié son projet au cardinal Dubois, celui-ci lui a dit, écoutez, père Brottier, vous n'allez pas donner comme patronne à des orphelins une petite carmélite. Donnez-leur Don Bosco, Saint-François d'Assise, des hommes, quoi. Non, éminence, je ne suis pas d'accord. Ces enfants n'ont pas de maman. Thérèse sera leur petite maman. Et il a dit à Thérèse, « Moi, ce ne sont pas des pétales de rose que je veux, ce sont des billets de banque. » Et le miracle, et le miracle continue, puisque encore aujourd'hui, je voyais ces jours-ci l'ancien PDG, l'ancien directeur général des orphelins d'Auteuil, hein, ce sympathique Jean Gosselin, eh bien, actuellement, pour nourrir et protéger et éduquer les orphelins d'Auteuil, il faut la bagatelle de 3 millions de centimes par heure, tous les jours de l'année.
C'est et le miracle continue. C'est beaucoup de pétales de rose.
Le miracle continue. Oui. Bon, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de legs, hein, de donations pour que l'œuvre puisse continuer. C'est vraiment l'œuvre de Sainte Thérèse, voyez. Et les directeurs des orphelins d'Auteuil savent qu'ils ont absolument besoin de mettre Sainte Thérèse dans le coup pour que l'œuvre puisse continuer. Et d'autant que Thérèse avait comme novice une sœur Marie de la Trinité dont le papa travaillait à l'œuvre de l'abbé Roussel. Et donc Thérèse entendait souvent parler de cette œuvre. Quand le père Brottier a appris qu'il y avait à Lisieux une petite religieuse carmélite dont le papa connaissait son œuvre, il s'est précipité à Lisieux et il a fait de sœur Marie de la Trinité la marraine des orphelins d'Auteuil. Et cette Marie de la Trinité a eu sa statue dans la première église qui a été bâtie au monde en l'honneur de Sainte Thérèse, c'est l'église. L'église d'Auteuil, l'église des orphelins d'Auteuil, rue La Fontaine, à Paris. Et chose étonnante pour l'époque, le père Brottier a fait placer dans les couloirs de métro des affiches représentant Thérèse. Pour ce père Brottier, c'était une force de la nature. Hein. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il a été béatifié le même jour qu'Élisabeth de la Trinité. Hein. Le pape Jean-Paul II a tenu à réunir dans une même cérémonie de béatification ce grand constructeur, cet homme d'affaires qui ramassait des millions, le père Brottier, et puis la petite Élisabeth de la Trinité qui est morte absolument ignorée dans son Carmel de Dijon.
Père Descouvement, nous allons terminer en vous laissant parler sur le pape Jean-Paul II.
Ah, je ne le connais pas personnellement, je n'ai jamais eu la joie de célébrer la messe Enfin, si j'ai célébré la messe et qu'on célébrait la messe avec lui, tiens, à une messe en l'honneur du Très Saint-Sacrement à Rome. Bon, c'est évident que j'ai une grande admiration pour ce pape Jean-Paul II. Je pense que les jeunes ne s'y trompent pas. S'ils pouvaient admirer jadis un homme à la santé de fer, l'ancien sportif, l'ancien alpiniste, plein d'humour et de santé, s'ils vénèrent ce pape vieillissant, c'est qu'ils sentent que c'est un homme tout d'une pièce. Il n'a pas de langage. Il ose dire toute la vérité de l'Évangile, que cela plaise ou que cela ne plaise pas. Il ne fait pas de concessions. Je pense que c'est en partie cela qui fait le succès, si l'on peut dire, de Jean-Paul II.
La force de Jean-Paul II, son impact auprès des jeunes.
Auprès des jeunes, bon.
Auprès du monde aussi.
Oui, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que Jean-Paul II n'a pas fait de, comment dire, j'aime rappeler qu'il n'a pas... Il n'a pas proclamé de dogme nouveau. Hein. J'ai assisté le 1er novembre 1950 à la proclamation du dogme de l'Assomption par Pie XII sur la place Saint-Pierre. Le pape Jean-Paul II n'a fait que répéter inlassablement la bonne nouvelle de l'Évangile. Quoi. Hein. Et notamment, il insiste sur la place du corps dans la vie chrétienne. Vous savez que c'est fondamental. Le cœur de notre foi, c'est le corps de Jésus né du ventre de Marie. On n'insistera jamais assez sur cette importance du corps de Jésus. Dieu a pris un corps pour toujours, un corps de chair pour toujours. Et ressuscité, il conserve un corps, il conserve des mains, il conserve un visage. Et lorsque je vais à la chapelle, j'aime penser que Jésus me reprend en main. Tout à l'heure, j'ai communié. Qu'est-ce que je fais lorsque je reviens à ma chaise de célébrant? Je fais ça depuis des années. Je répète avec Thérèse, entre ses bras divins, je ne crains pas l'orage. Le total abandon, voilà ma seule loi. Sommeiller sur son cœur, tout près de son visage, voilà mon ciel à moi. J'aime rappeler que la première apparition de Jésus à Marguerite Marie en la chapelle de la Visitation a eu lieu un 27 décembre, en la fête de Saint Jean l'Évangéliste. Le 27 décembre 1673. Et Marguerite Marie a été invitée à tomber dans les mains de Jésus et à reposer sur son cœur comme Saint Jean l'avait fait au cours de la dernière scène. Je pense que la petite Thérèse, qui n'aimait pas les images du Sacré-Cœur où Jésus se contente de montrer son cœur, ça ne me dit rien, je ne vois pas le Sacré-Cœur comme tout le monde, disait-elle, aurait beaucoup aimé savoir que, justement, Jésus avait invité Marguerite Marie à reposer dans ses mains et sur son cœur. Et Thérèse aimait beaucoup une image représentant Jésus prenant Saint Jean sur lui. Je pense que les chrétiens seraient beaucoup plus heureux s'ils prenaient à la lettre le mot de Jésus dans l'Évangile selon Saint Jean, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Saint Paul emploie plus de 150 fois l'expression « Nous sommes dans le Christ Jésus, en Christo Jésus. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être dans les mains de Jésus. Alors, il y en a qui l'expérimentent. Il y a quelque temps, en confessant à quelques mètres d'ici, un homme, un médecin, il m'a avoué qu'il s'était senti littéralement empoigné par Jésus au cours d'une confession précédente. Hein? Il a expérimenté d'une façon sensible, dans une grâce mystique, ce que nous vivons tous dans la foi, à savoir que nous sommes dans les mains de Jésus. Quand je baptise un petit bonhomme, c'est Jésus en personne qui reprend chez ce petit bonhomme. Tout à l'heure, j'ai fait témoigner une religieuse qui a été merveilleusement guérie dans son lit à Armentières en récitant son chapelet un 8 décembre. Quand je vois cette religieuse, je pense que c'est un petit bout de cosmos que Jésus a repris dans ses mains pour lui rendre la santé. Cette religieuse était allée 19 fois sur le billard. En 2 secondes, Jésus l'a guérie de tous ses problèmes de rotule, de vertèbre, etc. Hein? Un miracle, un sacrement, c'est toujours le Christ qui agit. Comme dit saint Augustin, que ce soit Pierre, Paul ou Judas qui baptise, c'est le Christ qui baptise, mais le Christ ressuscité, la sainte humanité du Christ. J'aime beaucoup ce que sainte Thérèse d'Avila dit au hasard d'un de ses livres.
qu'elle ne croit pas à ces soi-disant mystiques qui prient toujours les yeux fermés. Hein, nous avons besoin de nous représenter Jésus, car Jésus, il a un corps ressuscité et tous les saints ont eu besoin d'images. Hein. Si Dieu me prête vie, je ferai un jour, à la demande du curé d'Ars, du recteur d'Ars, un beau livre où je présenterai les images du curé d'Ars. Parce que tous les saints ont eu besoin d'images pour se représenter Jésus. Vous avez vu que le livre le plus gros que j'ai écrit, un petit livre de 3 kilos, c'est un livre représentant toutes les images, tous les vitraux, toutes les statues que Thérèse a vues pour sa piété. À une époque où la télévision n'existait pas, où les livres d'histoire et géographie ne comportaient aucune illustration, Thérèse a eu besoin d'images pour vivre sa vie chrétienne. Et l'image qu'elle préférait, c'était l'image de la Sainte Face. Elle aurait beaucoup apprécié le linceul de Turin, qui n'a été photographié par Secondo Pia que l'année qui a suivi la mort de Thérèse, c'est-à-dire en 1898.
Père d'Escouvement, Jésus a dit « La lampe du corps, c'est l'œil ». Merci beaucoup de ces entretiens, de ces histoires véritables qui, dans le mystère de Dieu, nous émerveille toujours et illumine le corps de l'Église. Merci Père Pierre d'Escouvement.
Merci.
C'était Un temps pour parler avec l'abbé Denis Veilleux.